Bonjour, ici Fanny. On se retrouve pour un nouvel audio dédié au mystère des Miroforts et notamment leur lien avec les prêtresses antiques. On va aller un petit peu plus creuser sur cette thématique-là. Et comme je vous le disais dans l'introduction de cet atelier, dans toutes les grandes religions de l'Antiquité, eh bien, on a toujours pu vérifier qu'il existait des femmes qui étaient chargées de faire l'accompagnement des âmes dans les passages eh bien, les plus emblématiques de la vie d'une personne, c'est-à-dire sa naissance, sa mort, mais aussi au moment de ses renaissances symboliques, lors notamment des grandes initiations, notamment pour les prêtres et les prêtresses qui vont officialiser après dans les temples. Tout comme les prêtresses, les Miroforts ont cette particularité-là d'opérer dans cette zone qui articule les deux espaces, hein, entre le monde visible et matériel, physique, et le monde invisible, celui des morts. Ce sont donc des espaces d'entre-deux que l'on appelle espaces liminales, et elles sont les actrices des passages, comme on l'a vu. Les prêtres du temple à l'ère chrétienne ont décidé de les laisser s'occuper du passage du bas vers le haut, et eux ont pris le passage du haut vers le bas. Et avec Marie-Madeleine, elle a récupéré le double passage finalement, comme les prêtresses antiques le faisaient. Donc regardons ensemble les continuités d'ordre rituel et les ruptures également qu'il y a entre ces miroirs chrétiennes, dont Marie-Madeleine, et véritablement ce que l'on sait historiquement des prêtresses antiques. Commençons avec l'Égypte hellénistique notamment, donc la partie en fait où la Grèce avait conquis l'Égypte. C'est là que l'on en apprend plus sur les prêtresses d'Isis. Alors pourquoi? Parce que il y a peu d'écrits sur la pratique des prêtresses d'Isis avant, et c'est par l'intermédiaire des Grecs qui sont venus combattus, conquis l'Égypte, qui ont laissé des témoignages sur ce qu'ils ont vu. Alors le rôle d'Isis, qui est soit une déesse tout simplement, ou parfois retrouvée également sous l'appellation de prêtresse, eh bien, son premier rôle, c'est en tant que miroir d'embaumer Osiris, son époux, tué et démembré par Seth. Donc là, on est dans un combat entre trois dieux, si on veut, enfin, plutôt conflit que combat. Et Osiris va se faire quelque part avoir par Seth qui va réussir à non seulement le tuer, mais aussi à le découper en 13 morceaux qu'Isis va récupérer et qu'elle va réintégrer. Donc elle reconstitue son corps, puis elle va même aller jusqu'à lui redonner la vie. On dit que dans les textes, elle lui redonne le souffle. Elle va même aller jusqu'à concevoir, à la suite de cette résurrection, leur fils commun, Horus, un nouveau dieu. C'est-à-dire que non seulement elle va être capable de redonner la vie à un mort, mais en plus un mort démembré, donc bien bien mort. Il n'y a pas de questionnement à ce sujet-là. Il ne s'agit pas d'un coma ou autre, hein. On est vraiment dans un cadavre qui est démembré. Et non seulement elle va lui redonner le souffle, ce qui est symboliquement la vie, mais aussi sa pleine fécondité. Et les prêtresses d'Isis vont ainsi manipuler les parfums, les onguents et les autres huiles en reprenant rituellement ce geste d'embaumement que fait Isis. Ces prêtresses-là officie déjà à l'époque dans des rites plutôt nocturnes et mystérieux. Et là, elle garde le secret des paroles initiatiques, c'est-à-dire que on sait que ça a lieu, mais on n'en trouve trace nulle part de ce qui a exactement lieu. Cette fois-ci, on est dans les temples. Donc on sait qu'il y a des initiations, mais on ne connaît pas le contenu des initiations. À cette période, donc, on voit bien que le parfum n'est pas simplement décoratif, comme ça, comme il l'est aujourd'hui, hein, mais qu'il opère sur la dimension du physique, la dimension du réel. Alors, tout comme les myrophores, ces prêtresses isiaques qui sont les premières, hein, que l'on voit travailler avec les parfums, les onguents, avaient donc affaire aussi à des corps morts. Et donc, cette dimension sacrée des parfums est fortement liée à cette espérance de la vie après la mort, dans ce cycle de vie, mort, vie qui appartient principalement à la dimension du féminin, hein, comme on peut le voir notamment. Alors, c'est Clarissa Pinkola Estes, hein, dans son film absolument culte, Femme qui court avec les loups, qui revient sur ce cycle de vie, mort-vie, à travers différents contes, à travers différents symboles, et qui est en lien avec cette féminité sacrée. Donc le féminin dans son aspect le plus sacré, le plus divin, est le gardien de ce cycle-là. Et pas seulement le gardien, c'est elle qui le comprend, c'est elle qui l'articule, qui le met en œuvre. Elles sont les opérantes, ces femmes, de ce cycle-là. Et la différence, pardon, avec les myrophores, avec un grand M, c'est qu'Isis elle-même va provoquer le retour à la vie de son mari. Elle est l'opératrice de la résurrection par l'intermédiaire de l'embaumement et des parfums. Pour Marie-Madeleine et les femmes qui la suivaient, c'est plutôt la constatation d'une résurrection qui est déjà accomplie. En tout cas, d'après les éléments de la Bible, elles en sont les témoins, mais pas les actrices. On peut questionner cette information. Certains, donc qui sont plus dans la sphère ésotérique, vont dire qu'il y a eu une action qui a été cachée parce que les prêtres ne voulaient pas donner cette dimension-là, justement au myrophore, avec M majuscule, parce que du coup, elles devenaient des magiciennes du sacré, elles devenaient magiciennes et opératrices du divin. Donc en fait, elles faisaient venir le divin d'en haut. Alors, ok pour leur laisser la voie et l'annonce de la résurrection, mais on ne va pas aller jusque-là. Donc, ça, c'est certaines thèses qui ne sont pas vérifiables au niveau historique, mais qui font en sorte qu'il peut y avoir là plutôt une continuité des actes rituéliques égyptiens, par exemple, jusque-là. Donc elles seraient ces myrophores, les gardiennes de rituels initiatiques dont elles seraient, ben, justement, oui, les gardiennes silencieuses, c'est qu'elles savent faire. Mais ça reste secret et elles auraient pu opérer elles-mêmes la résurrection. Mais ça reste de l'ordre de on ne le saura pas. En tout cas, elles sont l'annonciatrice, ça c'est certain. Regardons maintenant, si vous le voulez bien, ce qui se passe avec les prêtresses antiques qui œuvrent en Grèce et notamment lors des rites d'Éleusis. Et nous retrouvons cette fois d'autres dieux et déesses, et notamment les deux déesses Merphi, Déméter et Perséphone. Donc les rites d'Éleusis, ce sont deux grandes initiations. Des initiations d'une part ouvertes, qui s'appellent les petits mystères, qui ont lieu, alors je ne sais plus si c'est une à deux fois par an, mais en tout cas très régulièrement, et qui sont ouverts à tous. Et les grands mystères, qui vont être réservés à certaines personnes, notamment ceux qui ont déjà suivi les petits mystères, qui apparaissent moins régulièrement et dont les pratiques sont là aussi tenues au secret absolu sous même peine de mort. S'il y a révélation de ce qui se passe dans ces initiations-là, eh bien l'initié peut perdre la vie. Donc autant vous dire que cette menace a été très prise au sérieux et qu'on ne retrouve absolument aucun écrit sur ce qui se passe dans les initiations. À la fin, de la période des rites d'Eleusis. On a bien là aussi des témoignages d'étrangers qui ont réussi à suivre les initiations et qui donnent un petit peu des symboles, mais sans révéler clairement ce qui se passe. Donc on doit deviner entre les lignes. Ils ont tenté en fait de témoigner, mais tout en restant sous clairement la menace. Donc en gros, on ne sait pas vraiment ce qui s'y tenait. On ne sait pas grand-chose sur ce que se passait dans ces initiations-là. C'est comme dans les rites initiatiques égyptiens. On ne sait pas. Mais voilà, quelques éléments sont cependant certains. Parmi les symboles hein, qui sont revenus jusqu'à nous, il est effectivement question de ce cycle qui revient de vie, mort, vie, donc comme on l'a vu typiquement féminin. Dans cette symbolique-là du cycle de la descente et de la remontée, notamment de la déesse Déméter. Et c'est ce qu'on rencontre aussi avec les déesses Inanna et Ishtar en Mésopotamie, mais voilà, je ne vais pas en parler parce qu'on a un petit peu moins d'éléments qui nous disent que les prêtresses de l'époque utilisaient les parfums et étaient en fait des myrophores. En tout cas, pour les prêtresses d'Éleusis, on sait qu'il y avait à la fois des femmes âgées hein, ou des vierges également consacrées qui restaient dans le temple pour servir. Et notamment, ce qui se passe, c'est que ces vierges-là étaient dans le temple jusqu'au moment de leur mariage. C'était un petit peu leur passage obligé. Et c'est ce qui faisait d'elles des femmes bonne à épouser finalement parce qu'elles avaient servi dans le temple. Donc il y avait des hommes qui ne voulaient absolument pas marier des femmes qui n'avaient jamais été servir dans le temple. En tout cas ici, on a aussi une transmission des mystères exclusivement orale et on sait également que ces prêtresses-là pratiquaient les lamentations rituelles lors des décès. Hein, ce sont parmi, je crois, les lamentations les plus connue, hein, celle de Grèce, donc qui accompagnait la tristesse des proches et qui était vraiment fait de cris dramatiques, vraiment ça allait très loin, pour permettre aux familles d'exprimer leur tristesse afin qu'elles ne soient pas renfermées. Du côté des parfums sacrés, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, on sait qu'elles manipulaient dans le temple l'encens et ce qui est appelé le kikéon, qui a plusieurs significations, mais il y a aussi la certitude que c'était une boisson psychoactive, donc de mise en place d'une descente de la psyché, un petit peu comme aujourd'hui avec l'ayahuasca. Et on retrouve aussi chez ces prêtresses-là des femmes donc qui sont les messagères bah, de ce mystère de la vie après la vie, du féminin sacré et aussi de la fécondité parce qu'elles servent de conseillères et de sages-femmes. Donc là aussi, on retrouve les codes du mystère réservé secret et de cette rupture avec les myrophores avec un grand M, qui vont rendre publique la résurrection et la faire connaître de tous. Donc on a cette opposition entre, pour le moment, l'Égypte et la Grèce, où il y a effectivement des prêtresses qui œuvrent, mais qui œuvrent dans la nuit et dans le secret absolu, avec aucun écrit, mais des transmissions orales. Et on voit bien que Marie-Madeleine, puisque du coup, hein, c'est un petit peu notre figure des Myrophores, du titre de Myrophores, eh bien, elle ne garde absolument pas le secret de ce qui se passe dans le tombeau, dans la nuit, parce que voilà, ils vont à la rencontre du tombeau, il fait encore nuit. Elle va recevoir l'ordre du divin d'aller répandre la nouvelle. Donc là aussi, il y a quelque chose de très innovateur, de très révolutionnaire, de très choquant même pour l'époque. Faisons un petit tour là aussi au niveau des prêtresses antiques de Rome. Donc plus tard encore, on va continuer à retrouver ces femmes qui sont chargées des lamentations et qui utilisent aussi les parfums et les huiles. Cette fois-ci, on retrouve un geste codé, très précis et écrit. On y retrouve toujours ce même parallèle avec les myrophores entre le rôle funéraire et la fonction sociale qui est de prendre soin du corps des morts dans les familles. Elles entrent dans les familles et finalement aident à la gestion du décès domestiquement. On constate donc vraiment une rupture avec les tout premiers rites de l'époque avec Isis qui permettaient le retour à la vie par ses bons soins, jusqu'aux myrophores finalement qui n'ont plus cette fonction d'opératrice et d'action. Et comme je le disais, on peut prendre ici deux directions d'interprétation. Soit on peut dire que le rite n'aboutit pas, soit que la Bible, comme je l'avais dit, ôte un certain pouvoir aux myrophores. Le dernier cas, c'est plutôt de la croyance, et j'ai pas forcément la légitimité de dire qu'il faut croire ceci ou cela, on n'a rien qui s'appuie là-dessus. On peut imaginer que ce sont bien les rites habituels des myrophores issus de l'Égypte qui ont terminé le processus de retour à la vie, si ce n'est qu'elles l'ont entièrement entamé et finalisé. Attribuer un tel pouvoir, en tout cas du temple et dans les mains des femmes, c'est vraiment une impossibilité pour l'époque et la région d'être reconnue. Donc, en tout cas, comme je l'ai dit, on va se focaliser sur le fait que la Bible va garder le pouvoir de la voix des myrophores, de les rendre à la lumière, parce que déjà, rien que ça, en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça a déjà suffi à créer des problématiques. Alors, on n'imagine pas si c'est celles qui ont opéré la résurrection, mais rien que de la répandre et de ne plus être ce groupe de femmes tenues au silence, c'est déjà quelque chose de très subversif. Donc, on va revenir maintenant aux myrophores chrétiennes dans à la fois les continuités par rapport aux prêtresses antiques, mais aussi ce côté révolutionnaire. Donc on voit dans la Bible que les myrophores, elles vont assurer une certaine continuité dans les rituels par rapport aux prêtresses de l'Antiquité. Comme elles vont apporter les parfums, les onguents auprès des morts et vont accomplir en fait une gestuelle féminine très traditionnelle, donc très héritée des prêtresses. Il n'y a rien de choquant là-dedans ou d'innovant. Tout bascule sur trois points. Premier point, le rite n'est pas abouti, c'est-à-dire que le corps n'est pas là et le parfum ne peut donc pas être utilisé. Et dans l'Antiquité, un rite interrompu, c'est une véritable catastrophe. Et c'est là, je pense, où on peut sentir pourquoi Marie-Madeleine est tellement dans l'angoisse lorsqu'elle cherche et demande absolument en pleurs. Donc il y a la tristesse d'avoir perdu l'homme, le prêtre, Jésus, mais aussi cette catastrophe absolue d'avoir perdu le corps. On ne peut pas agir dessus. Et elle est en pleurs et va demander au jardinier, qui en fait Jésus ressuscité, mais qu'elle ne va pas reconnaître tellement elle est dans un état... je ne sais pas si c'est de l'anxiété, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à dire ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, mais son état, on le voit, n'est pas celui d'un système nerveux détendu. C'est une catastrophe, ce qui vient de se passer. Donc elle cherche le corps. Les autres femmes sont parties pour aller le chercher, pour aller annoncer le fait que le tombeau est vide, et pour essayer de trouver des pistes, hein, peut-être enquêter, en tout cas pour dire « mince, il n'y a plus le corps ». Et en tout cas, Marie-Madeleine le recherche activement, elle va essayer de trouver des gens à qui demander. Donc là, on est encore dans la nuit, c'est quelque chose qui se passe, le jour n'est pas encore levé, hein. Ce sont des actrices nocturnes. Et donc, le rite est finalement empêché par la révélation même, par la résurrection même. Donc ça, c'est le premier point choquant pour l'accomplissement des prêtresses antiques, pour la myrophore, c'est que le corps n'est pas là et le rite et toute la dimension rituelle, c'est-à-dire la préparation avant de venir, de la femme elle-même, la préparation des parfums. Le rite a déjà commencé avant d'arriver au tombeau. La suite, l'embaumement, n'est que la continuation du rite. Et le rite a commencé et il est arrêté. C'est la catastrophe, c'est vraiment une question de malchance, de ne pas mener un rite jusqu'au bout. Ok, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point de bascule, c'est en fait que les femmes vont devenir les messagères. Donc ces gardiennes du mystère-là, celles que l'on demande de rester dans les silences, eh bien dans l'évangile, elles vont proclamer le mystère. Et ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, parce que non seulement elles ne se taisent plus, mais ce sont elles, les femmes, qui vont être les premières témoins et les premières annonciatrices, même avant les apôtres. Les apôtres, hein, qui étaient vraiment les disciples, etc., et qui étaient le summum du disciple, hein, donc ceux qui pouvaient prendre en héritage la succession de l'enseignement, eux sont mis de côté. Ils ne voient pas, en tout cas pas tout de suite, hein, et c'est pas eux qui vont l'annoncer. Ils vont répandre ensuite, mais c'est pas eux qui font l'annonce. Ça, c'est donc un sacré qui va échapper au masculin. C'est la deuxième grande révolution, le deuxième grand point de bascule par rapport aux prêtresses antiques. Troisième point, on a cette dimension du sacerdoce qui va changer de nature totalement. On va passer d'une médiation rituelle chez les prêtresses antiques, d'une certaine efficacité magique, d'un secret initiatique et d'un cycle éternel, à un témoignage, une annonciation, une parole qui est pour tous en plus, tout le monde peut l'entendre. Et c'est le témoignage d'un événement qui est censé être unique, hein, hormis certains dieux comme Osiris par exemple. Mais c'est un miracle, c'est que le sacré est venu dans la matière. Le miracle est advenu. Et elles ne sont pas l'opératrice du miracle, mais elles sont celles qui ne vont plus garder, oui, le secret. Donc il y a trois révolutions chez les Mirophores avec un M majuscule par rapport à la continuité de leur héritage, parce qu'on peut vraiment dire que les Mirophores suivent un héritage de prêtresse antique, mais elles se différencient avec ces trois points. Et Marie-Madeleine, si on revient à elle, va être cette figure de renaissance des prêtresses. Ces prêtresses que l'on a mis peu à peu dans l'ombre parce que, à la base, on voit avec Isis que c'était les opératrices et que progressivement, leur pouvoir de rituel, leur présence dans le temple leur a été ôté jusqu'à Rome. Eh bien, Marie-Madeleine va finalement faire renaître les prêtresses. Marie-Madeleine concentre en elle seule tout ce dépassement. Elle qui s'attend à pratiquer un rite secret, nocturne, discret, va recevoir une révélation et le geste finalement codifié, antique, va se transformer en quelque chose de verbal. On a un geste qui se transforme en verbe. On a un parfum qui va devenir une parole. Aucune prêtresse antique n'a été appelée personnellement par la divinité jusqu'ici pour être l'envoyée, la mise en lumière. C'est absolument unique. Et c'est vraiment ce qui va poser problème plus tard à la figure de Marie-Madeleine. Parce que cette figure-là va brouiller les frontières de la prêtrise. Parce que son annonce, c'est finalement donner une autorité spirituelle à une femme. Donc, aïe, 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 à l'époque, hein, je vous rappelle que c'est le temple juif. Et donc, c'est donner une autorité spirituelle qui, en plus, ne va pas dépendre du temple, donc de l'institution. Alors, je ne sais pas si on arrive à saisir la dimension de ce qui se passe. C'est qu'il y a un miracle, mais alors qu'il est attendu de pied ferme dans le temple, que les rabbins théologisent, ils réfléchissent, etc. Les rituels sont faits, sont codifiés, et quand le miracle a lieu, ce n'est pas dans le temple. C'est dans le lieu, ça a lieu la nuit, donc au moment nocturne, alors que le Dieu, c'est le Dieu de la lumière, ça devrait arriver pile à midi. Au contraire, c'est dans la nuit, dans les mains des femmes, ou en tout cas devant les yeux des femmes, et c'est absolument hors de question d'y croire pour les personnes à l'époque de l'institution. Et c'est ce qui va expliquer, je pense, sa transformation de la figure de Marie-Madeleine en une pécheresse repentie en Occident. Pardon. C'est une atténuation de son rôle liturgique vers un recentrage masculin du sacerdoce, c'est-à-dire que il y a eu cette masculinisation du temple, déjà à cette époque-là. On a Marie-Madeleine qui fait renaître le pouvoir des miroforts et des femmes, des prêtresses, par le fait que c'est elle l'annonciatrice, et puis progressivement, bah, ça va de nouveau être repris. Mais l'Orient chrétien, lui, il va conserver cette dimension de Marie-Madeleine comme égale aux apôtres. Hein. C'est là vraiment qu'on peut regarder cette figure-là. Donc on peut voir qu'il y a une succession finalement symbolique dans le rôle des prêtresses, des miroforts. Ce cycle-là de vie, mort-vie, c'est d'atténuation, de mise dans l'ombre, en même temps de remise dans la lumière, et on repart dans l'ombre. C'est ce qui se passe pour les prêtresses, pour cet ordre-là. C'est qu'elles étaient dans la vie, dans l'opération au niveau d'Isis, puis progressivement elles descendent dans l'ombre, Marie-Madeleine les refait surgir à la lumière, et ensuite ça repart dans l'ombre. Donc, on peut voir ici que les miroforts, avec un M majuscule, vont bel et bien hériter des gestes de la science et de la signification, du sens de ce qu'ont établi, transmis plutôt les prêtresses antiques, de cet espace-là aussi qu'elles occupent d'entre deux, de ce seuil symbolique, et de voir que ce rôle-là va descendre lui aussi dans l'ombre. Donc finalement, elles qui sont les gardiennes de ce cycle-là, va subir ce cycle-là. Pas à titre personnel, mais au titre justement des prêtresses. Donc certes, les miroforts M majuscule ne maintiennent plus de façon opérante l'ordre cosmique comme à l'époque d'Isis, elle se contente finalement d'annoncer l'événement, mais cela reste une véritable résurrection symbolique du féminin au service du divin. C'est-à-dire que jusque-là, les femmes étaient impures et on pensait que le divin les évitait, que le sacré évitait les femmes. C'est donc une restauration de la voix des femmes. Tout simplement, Marie-Madeleine et l'époque des miroforts avec un grand M, c'est redonner la présence sacrée au cœur du féminin. J'espère que vous avez aimé cette plongée dans les miroforts, cette deuxième partie. On va continuer cette fois-ci encore à en creuser un autre aspect. Et voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous en attendant. Alors, à très vite! Fort avec un M majuscule vont bel et bien hériter des gestes de la science et de la signification, du sens de ce qu'ont établi, transmis plutôt les prêtresses antiques, de cet espace-là aussi qu'elles occupent d'entre deux, de ce seuil symbolique, et de voir que ce rôle-là va descendre lui aussi dans l'ombre. Donc finalement, elles qui sont les gardiennes de ce cycle-là, va subir ce cycle-là. Pas à titre personnel, mais au titre justement des prêtresses. Donc certes, les miroforts M majuscule ne maintiennent plus de façon opérante l'ordre cosmique comme à l'époque d'Isis. Elle se contente finalement d'annoncer l'événement, mais cela reste une véritable résurrection symbolique du féminin au service du divin. C'est-à-dire que jusque-là, les femmes étaient impures, et on pensait que le divin les évitait, que le sacré évitait les femmes. C'est donc une restauration de la voix des femmes, tout simplement. Marie-Madeleine, et l'époque des Mirophores avec un grand M, s'est redonnée la présence sacrée au cœur du féminin. J'espère que vous avez aimé cette plongée dans les Mirophores, cette deuxième partie. On va continuer cette fois-ci encore à en creuser un autre aspect. Et voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous en attendant. Alors, à très vite !